Mensagem de Nível, com Arthur Silva.
Bonjour à toutes et à tous. Ce dimanche 17 mars, passage à niveau en votre compagnie jusqu'à 14h, émission avec des rediffusions dans la nuit du mardi à mercredi à partir de 0h, sans oublier le podcast. Et on va démarrer avec une actualité plus que chaude, c'est le cas de le dire, au sujet d'un livre, Le mensonge total, enquête sur un criminel climatique de Michael Corail, publié par Seuil Mediapart. On parlera également de la 25e édition de la semaine du cinéma lusophone, qui va avoir lieu à Nice, Beau Soleil et Avance, sans oublier le Forum Emploi 2024, le 27 mars au Consulat du Portugal à Paris et le 28 Salon Paris-Montreuil. On parlera d'une pièce de théâtre adaptée d'un roman de Miyakoto. Il s'agit des Sables l'Empereur qu'on pourra voir à l'EMC 93. Et on parlera également d'un théâtre musical Soldat d'ici et là-bas, qui va être représenté le 22 mars à Brunois. Et finalement, on va partir après au nord du Portugal, à Faf, mais également à Mogadouro. Mais déjà et avant tout, Michael Corail, bonjour et merci d'être sur Radio Alpha.
Merci pour l'invitation.
Alors, il s'agit de votre livre le plus récent, Le mensonge total et enquête sur un criminel climatique. Alors, justement, Michael Corail, on n'a jamais autant parlé que de réchauffement atmosphérique. La nécessité de réduire l'émission de gaz à effet de serre du changement de climat. Alors, au bout de 2 années d'enquête, on dirait que pour Total Energy, bon, tous ces problèmes n'existent pas.
Ah ben oui, tout roule pour eux, c'est que je rappelle quand même que il y a à peu près 90% du réchauffement du climat qui est dû au fait qu'on brûle du pétrole, du gaz ou du charbon. Et pendant ce temps-là, il y a aussi tous les scientifiques qui nous disent qu'il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on laisse ce pétrole et ce gaz et ce charbon dans le sous-sol pour limiter la catastrophe climatique et écologique. Mais effectivement, Total Sport est en super bonne santé. Hein. Donc là, en février, ils ont annoncé leur profit pour 2023, c'était quasiment 20 milliards d'euros, et sachant qu'il y a 90% de ces 20 milliards d'euros qui viennent de la vente de pétrole et de gaz, quoi. Donc ils sont vraiment de l'argent sur le dos de la planète, sur le dos du climat.
Alors, avec votre enquête, vous tirez certainement de leçons et des chiffres. Alors, notamment, la pollution totale égale à toute la pollution par la population française. Je parle de CO2.
Ouais, c'est ça. Bah, au fait, c'est pas pour rien que je me sens intéressé à cette entreprise. Hein. C'est quand même une des 20 entreprises les plus polluantes au monde. Et c'est une entreprise française, donc c'est pour ça aussi que je me suis intéressé à elle. Mais effectivement, à elle seule, Total, qui s'appelle maintenant Total Energy, hein. Total Energy, elle émet autant de gaz à effet de serre que l'ensemble des Français. Et après, pour continuer sur le podium, c'est aussi le premier développeur de projets pétroliers et gaziers sur le continent africain. C'est vraiment le champion. Et c'est aussi un des champions des nouveaux projets de pétrole et de gaz à travers le monde. Sachant qu'encore une fois, il y a à la fois les scientifiques, le GIEC, c'est les experts pour le climat de l'ONU, et l'Agence internationale de l'énergie qui nous dit depuis des années que, encore une fois, dès aujourd'hui, il faut arrêter de faire tout nouveau projet pétrolier ou gazier sur la planète pour qu'on s'en sorte. Et moi, j'ai calculé, par exemple, rien que pour 2023, Total Energy a lancé ou construit une vingtaine de nouveaux projets de pétrolier ou gazier à travers le globe. En 2022, c'était pareil, c'était une vingtaine de nouveaux projets. En fait, au lieu de freiner, on devait être dans une dynamique de fermeture des puits de pétrole, des raffineries, des terminaux gaziers, etc., et à s'organiser pour sortir du pétrole et du gaz. Au lieu de ça, Total Energy, c'est même pas des gens qui commencent à stabiliser, mais au contraire, qui sont en train de croître, en train de grandir leur production de pétrole et de gaz, encore une fois, sur le dos de la planète, mais aussi des plus précaires, hein, des plus vulnérables. C'est toujours les plus pauvres et les plus précaires qui souffrent le plus des canicules, des inondations, etc.
Alors, tout à l'heure, on va parler deux cas concrets. Hein. Il s'agit de plastique, une nouvelle bombe climatique. Ça, là, on va parler de l'Arabie Saoudite, mais également ce qui se passe au niveau de l'Uganda. Mais déjà, Monsieur Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy, a été interviewé souvent, mais enfin, il dit, mais il faut bien que les automobilistes puissent se rouler, donc on a besoin de pétrole, on a besoin d'essence.
Ça c'est l'argument massue à chaque fois du PDG de Total d'énergie qui dit, Moi, je fais que répondre à la demande, au fait. Il y a une demande. Mm-hmm. Voilà, je suis là, c'est mon business. Bon, le problème, c'est que déjà, au fait, il y a des demandes pour plein. Enfin, déjà, encore une fois, on parle du pétrole et du gaz, qui sont des produits qui sont nocifs maintenant pour la planète et qui produisent aussi des morts, hein, en fait. Juste pour donner un chiffre, en France, depuis 2014, rien qu'avec les canicules, c'est environ 35 000 morts en France. Que ça, c'est l'agence française Santé publique France qui dit ça, hein, c'est 35 000 morts. Donc, vendre ça, du pétrole et du gaz, ça crée de la mortalité. Bon, il y a, pour l'histoire de la demande, bon, il y a bien une demande, par exemple, en armes, il y a une demande en drogue, etc. C'est pas pour ça que on va autoriser les dealers à mettre ça. Donc, on a plein d'outils de régulation pour mettre des quotas, pour interdire certains usages, etc. On pourrait le faire aussi avec le pétrole et le gaz. Et après, au fait, quand il dit ça aussi, Patrick Pouyanné, quand il dit « moi, je fais que répondre à la demande », au fait, il écrase un vrai débat qu'on devrait avoir. C'est quoi les vrais besoins qu'on a en pétrole et en gaz? Et c'est quoi? Et c'est ça la vraie question, en fait. Et si je devais caricaturer, est-ce que quelqu'un, par exemple, qui habite à Paris, où il y a un très beau réseau de transport public, est-ce que prendre son 4x4 pour se déplacer dans Paris, est-ce que c'est un besoin, c'est un vrai besoin? Est-ce que quelqu'un, un millionnaire qui prend son jet privé pour faire Paris-Nice ou Paris-Lille comme il prend son taxi, est-ce que c'est un vrai besoin social? Donc c'est vraiment ça la question. Moi, par contre, je trouve par exemple un travailleur, un ouvrier qui habite à la campagne où il n'y a pas de réseau de transport public et où il est obligé de prendre sa voiture et de faire un plein d'essence, moi je trouve que c'est un vrai besoin. Donc lui, quand il dit ça, je fais que répondre à la demande, il écrase un peu tout ce débat-là sur, encore une fois, comment on doit sortir collectivement de ce pétrole et ce gaz.
Alors, ça n'empêche que, bon, Total, elle rétorque, elle dit, bon, attention, on investit des milliards dans les énergies propres. Donc, ça, c'est une réalité, mais vous critiquez, vous dites, bon, très bien, ils ont 20 milliards de bénéfices, et ils investissent que 3 ou 4 milliards, mais il y a quand même Total essaie de verdir, entre guillemets, ses activités, non?
Ouais, c'est tout le discours de Total Energy. Mmh. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont changé de nom en 2021. C'est Total, ils sont passés de Total à Total Energy avec un S pour dire que bon, on fait du pétrole et du gaz, mais aussi de l'énergie verte. Et ils communiquent surtout sur le fait qu'ils mettent 5 milliards de dollars par an en investissement dans le solaire, dans l'éolien. Bon, on peut se dire 5 milliards, c'est quand même pas rien comme somme. C'est énorme. Sauf que le problème, c'est que quand on regarde l'ensemble des investissements, qui met notamment l'année dernière, c'est à peu près 17 milliards de dollars d'investissement, enfin 5 qui partent pour les énergies vertes, mais les deux autres tiers, ils partent pour le pétrole et le gaz. Et aussi, le rôle premier de Total Energy, au fait, c'est de faire plaisir à ses actionnaires. Donc, ses actionnaires, cette année, leur dividende a augmenté de 7%, et au total, l'enveloppe qui a été distribuée aux actionnaires, c'est quasiment 17 milliards de dollars aussi. Donc, en fait, il y a trois fois plus d'argent qui est donné aux actionnaires que dans les énergies vertes, quoi.
Alors, votre livre, il faut le lire attentivement, parce que ça concerne notre vie quotidienne, mais il y a deux cas bien concrets que j'aimerais bien vous en résumer, parce qu'il faut lire le livre. Il s'agit du pipeline Uganda-Tanzanie, et qu'est-ce qui se passe au Congo Brazzaville, dans la mesure où la population est expropriée des terrains, des arbres qui sont tout simplement arrachés. Ces deux cas-là, c'est vraiment l'exemple de ce qu'il faut pas faire et comment est-ce qu'on est en train d'abîmer la planète.
Ouais, ces deux exemples-là, ils montrent bien c'est quoi la politique de Total Energy. Alors d'abord, il y a en Ouganda, ça a démarré en juillet dernier, Total Energy a commencé à démarrer 400 puits, à construire 400 puits de pétrole, sachant que il y a une partie de ces puits de pétrole qui vont être dans un parc naturel extrêmement protégé, quoi. On est quand même en Afrique de l'Est, avec les plus grandes réserves d'eau douce du continent. Et à côté, on va, alors qu'il y a des girafes, des éléphants, des singes, etc., exceptionnels, on va forer des puits de pétrole. Ensuite, pour ce puits de pétrole-là, pour l'acheminer jusqu'à la côte en Tanzanie, ils vont construire un oléoduc de 1500 km de long. C'est énorme, hein, c'est la distance entre Paris et Rome, qui va être chauffé à 5 degrés en permanence pour maintenir le pétrole liquide, pour qu'il soit vraiment transportable dans l'oléoduc. Ici, encore une fois, il y a tout le monde qui dit que c'est pas possible de faire ça aujourd'hui. Je veux dire, même le Parlement européen a voté une motion contre ce projet-là. Il y a les plus grands scientifiques climatologues qui ont fait aussi une tribune pour dire qu'il faut arrêter ce projet-là. Sachant que pour ce projet-là, on estime qu'il y a à peu près 100 000 personnes, 100 000 Ougandais et Ougandaises qui ont été affectés par ce projet. Donc c'est soit des gens qui ont été expulsés de leur terre, ou une partie de leur maison ou de leur terre est grignotée par ce projet-là. Et on est en train de... Il y a énormément d'associations, notamment des droits humains qui vont sur place et qui disent qu'en fait, les Ougandais, ils n'ont pas trop le choix. En fait, je rappelle que l'Ouganda, c'est une des plus vieilles dictatures militaires d'Afrique. Hein. Le président Museveni est là depuis 1986. Donc les gens ont pas trop de choix. Mmh. Alors le deuxième projet, pour moi, il est vraiment hallucinant sur comment Total Energy peut mentir. C'est que ils ont été en République du Congo, en Congo-Brazzaville, et à 200 km au nord de la capitale, ils ont fait main basse sur une zone gigantesque de 40 000 hectares. Alors 40 000 hectares, pareil, pour donner un ordre d'idée, c'est 4 fois la taille de Paris. Donc là-dessus, ils ont dit, on va planter 4 millions d'arbres, 4 millions d'acacias. Et en fait, ces arbres-là, en 20 ans, ils vont absorber les émissions de nos émissions, quoi, les émissions de Total Energy. Le problème, c'est qu'il y a deux problèmes, c'est que pour faire ce projet-là, en fait, il y a à peu près, j'estime qu'il y avait à peu près 400 personnes qui ont été expulsées de leur terre. Ces gens-là, ils ont reçu à se partager pour être dépossédés de leur terre. Ils ont reçu une enveloppe totale de 76 000 euros à se partager. C'est même pas 5 jours de salaire du PDG de Total Energy, hein, Patrick Pouyanné. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est un projet qui sert à rien. Alors pourquoi il sert à rien? C'est pas moi qui le dis, c'est même Total Energy qui le dit. Ils estiment que ce projet-là, donc sur une surface grande comme 4 fois Paris, en 20 ans, au fait, ce que ça va absorber comme gaz à effet de serre, comme carbone, c'est même pas 2% de ce qu'émet Total Energy en une seule année. Donc c'est vraiment ridicule. Donc il y a tout ce projet-là, où il y a des gens qui perdent leur terre, qui sont rémunérés vraiment avec des cacahuètes. C'est un projet pour rien, en fait. C'est juste une grande opération de communication. Sauf que ça se fait sur le dos des Congolais et des Congolaises, quoi.
Alors, Miguel Correuil, une dernière question. Alors, le plastique, nouvelle bombe climatique, qu'est-ce que Total Energy et Saudi Aramco sont en train de préparer exactement? En 2 minutes, s'il vous plaît.
Alors oui, c'est vrai que le plastique, on ne sait pas, mais c'est fait à 99% de pétrole ou de gaz, et c'est la nouvelle voie pour faire de l'argent pour les pétroliers, quoi. Ils disent c'est une super façon de faire de l'argent. Donc là, ils ont construit un énorme projet qui va démarrer bientôt, qui s'appelle le projet Amiral. C'est sur la côte en Arabie Saoudite, hein. C'est un projet à 10 milliards de dollars. Donc Total Energy et Saudi Aramco, qui est le géant du pétrole saoudien, vont construire une méga usine pétrochimique pour produire du plastique à partir de pétrole, qui est plastique qui va ensuite inonder les marchés européens et asiatiques.
Et polluer, bien entendu, les océans, et tout ça, etc. Alors, Michael Correa, vous êtes journaliste climat à Mediapart, mais on pourrait dire que vous êtes écolérique,
oui.
Écolérique, pardon.
C'est ce qu'on me dit toujours.
Écolérique,
en fait, moi, il y a une question qu'on me pose tout le temps. Est-ce que vous n'êtes pas déprimé à écrire sur des géants comme ça, où il y a encore beaucoup de choses à faire pour les freiner? Et c'est vrai qu'on parle beaucoup, c'est le mot que utilisent beaucoup de jeunes, d'éco-anxiété. L'éco-anxiété, c'est vraiment, on est anxieux face à la crise écologique. Donc on me demande est-ce que je suis toujours éco-anxieux, et moi je dis non, moi je suis pas éco-anxieux, parce que quand je fais mes enquêtes et que je découvre ça, moi ça m'énerve, en fait, ça me met en colère. Et donc le jeu de mots que je dis tout le temps, je suis pas éco-anxieux, je suis écolérique, quoi.
Miguel Correuil, merci. Donc, je rappelle le mensonge total, enquête sur un criminel climatique. Mensonge total, c'est Total Energy. Alors, une publication conjointe de Seuil et Mediapart, et une référence encore, hein, pour ceux qui sont intéressés de continuer à analyser cette situation-là. Je les envoie un autre livre que vous avez écrit, Criminel climatique, enquête sur les multinationales qui brûlent notre planète, à la découverte. Un livre d'ailleurs sur lequel on a parlé en direct à l'antenne. Michael Correuil, merci, obrigado.
Merci.
Et maintenant, on part où? On part à Nice, ni plus ni moins. Catherine Clemente-Barge, bonjour.
Bonjour.
Alors, quand on parle de Nice, Côte d'Azur, etc., Monaco, on peut entendre Radio Alpha, on peut écouter Radio Alpha chez vous?
Oui, c'est vrai, depuis quelques mois, il y a une antenne à Monaco.
Voilà, tout à fait. Donc, c'est grâce à ce qu'on appelle le DAB+, à savoir la TNT de la radio, tout simplement. Alors, 25e semaine du cinéma lusophone. Déjà 25 ans, ça nous vieillit un petit peu, Catherine?
Oh, moi, je reste toujours très jeune, hein, dans ma tête. Non, c'est vrai, elle est 25 ans, et oui, effectivement, ça fait un certain temps. Et encore, on a eu des années où on n'a pas pu la maintenir à cause du Covid. Mais là, on a repris depuis 2-3 ans. On en est content.
Alors, vous avez pris le flambeau dans la mesure où vous êtes présidente de l'association de l'espace de communication lusophone. Un grand bonjour à Pedro de Nobrega, bien entendu. Alors, cette édition, comment est-ce qu'on pourrait la classer? Comment est-ce qu'on pourrait la définir?
Alors cette année, on a voulu faire un petit peu de renouveau parce qu'on a un nouveau bureau, mais en même temps garder ce qui faisait le succès de la semaine du cinéma avec ce qui avait été établi avec les précédents présidents et les précédents bureaux. Donc on a voulu également être partenaire du Portugal dans la commémoration de la révolution des œillets les 50 ans cette année. Donc on a essayé de tourner un petit peu cette semaine du cinéma en fonction. Mais on a toujours des films brésiliens dans notre programmation.
Donc, comme d'habitude, bon, c'est en plusieurs villes. Jean-Paul Belmondo à Nice, au théâtre Michel Danner à Beausoleil et à Médiathèque de Vence.
On a même Grasse qui s'est rajoutée un peu au dernier moment, avec le festival Transméditerranée toujours.
Voilà, j'avais voulu, parce qu'en général, oui, je parlais toujours de Grasse. D'ailleurs, ils sont là-bas, c'est la patrie des parfums. Bon, alors, tout ça avait démarré avec un film d'une luso-descendante. Là, je veux parler de Christian Laufgemeyer, Alma Vive, un film qui a circulé partout, extraordinaire, il a même représenté Portugal aux Oscars.
Exactement. Alors, on l'a passé, en fait, l'année dernière. On a été l'un des premiers à le passer en avant-première. On l'avait passé à Beausoleil et à Nice. Et puis, bon, c'est un film qui a eu beaucoup de succès, qui a eu au Prémio Sophie au Portugal. Et cette année, en fait, c'est Vence qui nous a demandé si on pouvait le repasser. Donc, comme c'était notre première édition à Vence, eh bien, on a décidé de partir là-dessus. C'est un film qui a toujours beaucoup de succès et qui parle un peu du nord du Portugal. Je suis pas très loin de ce village en réalité. Donc c'est assez troublant pour moi.
Ouais, c'est un film super. Alors, il y a un choix, il me semble que c'est le vôtre. Amélia's Children. Alors, qu'est-ce qu'un film d'horreur fait au milieu de la semaine du cinéma lusophone?
J'adore les films d'horreur. C'est vraiment une section du cinéma que j'aime beaucoup. Et il se trouve que le cinéma portugais n'est pas très bien représenté dans le cadre du film d'horreur. Et là, on a Gabriel Abrantes qui a fait une petite pépite, qui a été saluée par Le Figaro et par plusieurs magazines cinématographiques. Et vraiment, il est vraiment... Pour ceux qui aiment les films d'horreur, les films un peu de possession, les films un peu psychologiques, il est vraiment, vraiment très bien. Et j'ai voulu un petit peu mettre ma touche dans ce film-là. Et puis, la touche pas que la mienne, puisqu'il y a certains membres du bureau de l'association qui étaient très contents aussi qu'on puisse avoir ce type de cinéma. Quelque part, l'art, le 7e art, c'est aussi des films d'horreur qui ont aussi beaucoup de succès. C'est une autre vision de l'art.
Voilà, La Semaine du Mal, interdit au moins de 2 ans avec avertissement, s'il vous plaît. Alors, il y a un autre film très intéressant, d'ailleurs, il est toujours projeté en France, je crois, c'est L'Aigle. Là, on change complètement de registre, c'est réalisé par Jean Millerguer et Philippe Reich.
Exactement. L'Aigle, ça se passe toujours dans le nord du Portugal. Finalement, le nord du Portugal est assez attrayant hein, pour le cinéma portugais. Et effectivement, c'est donc une dame, Anna, qui aide Emília dans sa fin de vie. Finalement, c'est un film très féminin dans la perspective, parce que ça parle des femmes, des choix des femmes, mais en même temps, ça parle aussi du sujet qui est la fin de vie, qui est vraiment très, très... Très bien. Il a été présenté à la quinzaine du cinéma du Festival de Cannes en 2023. Je pense qu'il a un joli petit avenir.
Voilà. Alors, on va rester au nord. On va rester au nord. Viver mal et mal viver de João Canijo.
Alors, c'est un film qui est... Deux films qui sont très intéressants. C'est un diptyque avec des visions différentes à peu près du même instant. Et j'aime bien cette dualité de vision. On est toujours sur le nord du Portugal. Le cadre, c'est un hôtel. Et puis d'un côté, il y a une famille qui se déchire avec des femmes qui se déchirent. Ce sont celles qui gèrent l'hôtel. Et puis de l'autre côté, il y a les touristes qui sont là. Donc on a d'un côté la première vision et le deuxième film et cette seconde vision. Alors ils peuvent se voir distinctement. Mais le plus intéressant, c'est quand même de les voir l'un après l'autre.
Voilà, ça a été projeté aussi en France. Alors, il y a un film que ça me tient à cœur, ça ne va pas dire que les autres ne me tiennent pas à cœur, mais enfin, il s'agit de César Lièvre, la diva au pied nu. On a eu l'occasion de parler, je l'ai connu personnellement au Cap Vert, au Petit Bijou. Ceux qui sont dominés, ils savent de quoi je parle. Et ça, c'est très important parce que finalement, c'est une page d'histoire, de l'histoire, on dirait du Portugal, du Cap Vert et pas seulement de la diaspora capverdienne. Et c'est un documentaire énorme.
Magnifique. Oui, c'est un documentaire qui est vraiment magnifique. Il a été... Beau Soleil l'a sélectionné dans le cadre de sa semaine également des poètes parce qu'il trouvait que ça s'inscrivait très, très bien. Alors moi, c'est une dame que j'ai connue au Festival de Nice. À un moment donné, j'étais venue pour un autre chanteur. Je la connaissais pas, j'étais un peu jeune. Et puis, je l'ai entendue chanter et ça a été un coup de cœur incommensurable. Et je l'ai suivie jusque malheureusement à la fin. C'était vraiment une dame exceptionnelle. Et ici à Nice, on a une grande communauté capverdienne, donc on a aussi voulu leur rendre un petit peu hommage, bien que le documentaire en lui-même se suffise tellement il est très bien construit.
Ah ouais. Et ce n'est pas pour rien, justement, c'est un capverdien qui travaille à Paris, Gilles Silva, pour pas le nommer, c'est lui qui a mis les pieds à l'étrier, les pieds nus à l'étrier de César Lièvre. Alors, on parle de l'autre côté de l'Atlantique, au Brésil, avec deux films.
Oui, deux films. Alors, deux films qui ont vraiment marqué l'histoire du Festival de Cannes l'année dernière. On a Portrait fantôme, donc qui a une sorte de voyage à travers les temps où il y a à la fois de la fiction, des archives, des extraits de films. C'est très très bien construit. C'est un film un petit peu différent, je dirais, mais qui est vraiment très très bien construit. Et puis après, on a en avant-première chez nous, A Flor de Bruti, donc qui est vraiment un peu le combat d'indigènes au Brésil, les Crao. Et donc c'est une fille, une jeune fille qui voit à travers, pendant trois générations, qui voit un petit peu comment tout cela a évolué. C'est un film, on a déjà eu des films sur les indigènes au Brésil. Celui-ci a une perspective légèrement différente, qui est très intéressante.
Alors, on revient un petit peu au début, parce que bon, le 50e anniversaire du 25 avril, ça sera bientôt. Et justement, donc le festival, il tient compte de ça. Et qu'est-ce qui va se passer, justement, une après-midi, parce que les écoles, concrètement, des écoles primaires du collège Vernier, du lycée Masséna, qu'est-ce qu'on pourra voir, justement, à la salle Laure Écart à Nice?
Voilà. Alors, il faut savoir que l'association, elle est là aussi pour promouvoir la langue portugaise également dans l'enseignement, puisque c'est très important. Donc, on aide autant que faire se peut les écoles à Nice où les cours de portugais sont dispensés, que ce soit au primaire, au collège ou au lycée où on a des sections internationales. Donc, le samedi après-midi, on fait ce qu'on appelle un interlude musical et artistique où on va avoir nos élèves qui vont faire des petits théâtres sur le thème du 25 d'avril avec des chansons, des théâtres, voilà, des poèmes. Et tout cela sera suivi donc de la présentation de nos partenaires, bien évidemment, mais enfin par un concert de fado de Mika Cunha qui nous vient de Paris, qui descend avec ses guitaristes pour nous enchanter nos oreilles sur A Saudade Portuguesa.
Oui, Casimir Silva na viola. Exactement. Et Felipe de Sousa na guitarra dita portuguesa. Ora, bom, este é o festival, lembro, vai ser de 20 a 26 de março. Mas, entretanto, eu suis parti sur le portugais, pourquoi pas? mais après, vous avez déjà un certain nombre de projets, et oui. On parle d'un projet d'un festival de livres lusophones, etc. Et je pense que, bon, les enfants, ils sont pas loin, parce que vous voulez aussi inclure la littérature infantile.
Parce que c'est ça aussi la littérature. Je me rends compte que de plus en plus, on achète beaucoup de livres à nos enfants. Alors peut-être les adultes, ça reste un peu stable, mais sur les enfants, on essaie de les orienter vers la lecture. Et on a au Portugal et au Brésil une littérature infantile qui est riche. Donc on voulait aussi la mettre en valeur. Et bien entendu, on a une littérature également lusophone pour adultes qui est également très importante. On a plusieurs éditeurs en France. On a également des éditeurs un peu au Portugal et également au Brésil. Mais voilà, on voulait mettre un petit peu en exergue cette littérature et on voulait donc lancer un premier petit festival dans un premier temps, mais on espère bien que ça grandisse sur la littérature lusophone. Mmh. Ça sera sans doute vers septembre.
Voilà. Et bon, au milieu de tout ça, il y a quelqu'un qui a dessiné pas trop loin, Edouard Lorenz, justement.
Exactement. Et... Alors cette année, voilà, c'est les 100 ans,
de la naissance
de d'Eduardo Lorenz. On a à l'université de Nice beaucoup de personnes qui l'ont connu, qui ont travaillé avec lui. On est très attaché à Nice, l'université de Nice est très attaché à Eduardo Lorenz. Donc on va effectivement faire un événement sur Eduardo Lorenz. A priori, ça serait mi-novembre, début décembre. Ça coïnciderait avec sa date d'anniversaire. On a une exposition qui devrait pouvoir se faire à Nice avec le concours du consulat de Marseille, du consulat de Portugal de Marseille, qui nous aide pas mal sur ce projet-là. Donc voilà, on a pas mal de projets pour cette année.
Et d'ailleurs, c'est probablement l'exposition de Pedro Amaral.
Exactement.
Border Lovers, ni plus ni moins, c'est ça déjà tourné, ça a été à Bordeaux, à Paris, etc.
Exactement, c'est cette exposition-là, effectivement.
Alors, je disais, 25e semaine du cinéma lusophone. Tout un tas d'invités, des films, des mobilisations. Bon, mais il y a le nerf de la guerre. Au milieu de ça, il faut de l'argent, il faut des soutiens. Et ça, je pense qu'il y a cet nombre de soutiens que tous les ans, ils sont là, présents.
Oui, on a le soutien effectivement de la ville de Nice, du département et du Portugal également. Après, on a aussi le soutien de nos adhérents, on a le soutien des parents d'élèves qui nous aident beaucoup également pour le petit théâtre et autres. Et puis, on est toujours en attente de soutien et de bonne volonté. On est une association très ouverte, on est ouverte à beaucoup d'idées. Tant qu'elles sont bonnes et qu'elles prémeuvent la culture portugaise, c'est ce qui nous intéresse.
Et ça concerne, bon, parce que vous travaillez pas mal avec les écoles, je ne sais pas si je peux vous demander à vous, vous êtes avocate, hein, et spécialisée dans la loi du travail. D'ailleurs, plusieurs fois on m'a fait appel à vous. Mais justement, au niveau de l'enseignement, vous faites ce que vous pouvez, bon, au niveau des cours, etc. Mais quelle est la situation, là, dans la région?
Alors, très honnêtement, il faut savoir qu'il y a beaucoup de demandes pour l'enseignement de portugais. Il y en a énormément. La difficulté que parfois on a, c'est que les parents ne sont pas forcément informés par les directeurs d'établissement qu'ils ont cette possibilité. Il suffit de cocher une case dans un feuillet. Et puis après, ensuite, on a des difficultés d'ordre pratique, puisqu'il faut que les écoles soient ouvertes. Donc soit c'est de 4h30 à 6h, soit le mercredi. Et là, il faut qu'il y ait une bonne volonté de la municipalité pour nous permettre de pouvoir cet accès. C'est là. On a toujours eu cette possibilité-là à Nice, et puis là, cette année, effectivement, le mercredi, on n'arrive pas à ouvrir les écoles, donc les cours ne sont pas dispensés le mercredi à Nice.
Et d'ailleurs, bon, il y a pas mal de directeurs d'école. Là, on parle au niveau des primaires. Hein, parce que normalement, ils doivent faire circuler un formulaire.
Oui,
les donner aux enfants pour que les enfants montrent ce formulaire aux parents pour choisir une langue. Et justement, c'est pour ça qu'on lance l'appel tous les ans. Et ça y est, on est pratiquement, on est déjà à la mi-mars. Justement, il faut demander ce formulaire et après, il faut le faire suivre aussi la coordination de l'enseignement portugais en France et etc. Mais enfin, les associations y sont aussi. Catherine Clement-Barge, merci. Bon vent, parce que vous êtes au bord de la mer.
Merci beaucoup.
Merci.
Bonne journée.
Et je rappelle donc que Radio Alpha est bon depuis quelques mois, au-delà de Lille, Paris, Lyon et Strasbourg, aussi Monaco et la Côte d'Azur, Nice, Cannes, etc. Et on arrive même jusqu'à Marseille. Mais déjà, moi, je vais respirer une ou deux petites minutes. Passage à niveau et de retour, on revient au direct ce dimanche 17 mars et de retour également, Forum Emploi du département stage et emploi de Cap Magellan, Luciane Confoyer, bonjour.
Bonjour Arthur, bonjour tout le monde.
Alors je rappelle que vous êtes délégué général de Cap Magellan. Alors, ces deux journées qui s'adressent à un public lusophone et lusophile de tous âges, ni plus ni moins. Alors, quels sont les objectifs concrets de ces deux journées?
Oui, alors le département Stage et Emploi a effectivement ce forum pour l'emploi annuel. Les objectifs, c'est de divulguer les activités du département et surtout d'aider les personnes, qu'elles soient jeunes, moins jeunes, diplômées ou pas diplômées, à trouver un stage ou un emploi en fonction de leur réalité. Donc c'est deux jours d'action où on divulgue les offres d'emploi des partenaires et où surtout il y a un accompagnement personnalisé qui est mis en place avec tout visiteur du forum pour l'emploi.
Alors le département de Stage et Emploi à 21 ans déjà.
Oh là là, il faut compter.
1993, 2003, 30.
31
ans, oh là, bon, c'est une génération.
Oui, c'est l'une des premières actions de Cap Magellan, créée en 91. Elle lance le département Stage et Emploi tout de suite en 93. Et effectivement, l'objectif, c'est la valorisation de la langue portugaise sur le marché de l'emploi. Donc, c'est comprendre que quand on parle portugais, c'est un atout sur un CV. Et effectivement, le département Stage et Emploi sert essentiellement à mettre en commun l'offre et la demande autour de l'emploi, des stages où le portugais est demandé.
Et parallèlement, il y a une aide à la rédaction d'un CV, lettre de motivation et même des conseils pour préparer un entretien embauche. Donc ça veut dire, bon, c'est comment dire, c'est vous êtes du début pratiquement jusqu'à la fin, et c'est important parce que rédiger un CV, une lettre de motivation, bon, c'est compliqué.
Oui, et puis il y a des particularités bien françaises aussi. Un CV au Portugal, c'est pas la même chose qu'un CV en France dans sa manière de le constituer. Donc effectivement, on a même lancé des ateliers, rédaction CV, préparation aux entretiens, rédaction de lettre de motivation, présentation des métiers. D'ailleurs, on va avoir cette semaine à l'école ENC Bessières, une séance de présentation des métiers de la banque à plusieurs BTS de l'école. Et donc, tout ça, c'est l'activité du département Stage et Emploi.
Alors, commençons par la première journée, à savoir le mercredi 27 mars au Consulat Général du Portugal à Paris.
Oui, alors le forum emploi, il se constitue toujours effectivement de deux journées complémentaires. Une première cette année au consulat général du Portugal à Paris. C'est un service d'information aux usagers du consulat. Ça marche plutôt sur rendez-vous parce que c'est plus simple en termes d'organisation et ça permet de mieux accompagner les personnes. Donc voilà, si vous passez par le consulat ou si jamais vous êtes disponible mercredi en recherche de stage et d'emploi, sachez que c'est tout à fait possible encore de prendre rendez-vous pour ce travail, cet accompagnement personnalisé qui commence au consulat.
Alors, cette recherche d'emploi, ça concerne le Portugal et la France?
Ça concerne essentiellement la France. On est surtout contacté par des entreprises en France qui recherchent des lusophones. On a aussi quelques demandes d'entreprises au Portugal qui recherchent des francophones. C'est de plus en plus une réalité, mais c'est quand même beaucoup moins nombreux dans l'activité du département Stage et Emploi. Donc là, on est surtout sur des offres sur le territoire français.
Alors, pour prendre rendez-vous, bon, je peux donner le numéro de téléphone, mais enfin, encore par email, dse@capmagellan, tout attaché minuscule.org, mais le mieux, c'est d'aller directement sur le site de Cap Magellan. Alors, le 28 mars, là, on part à Montreuil. Montreuil s'est collé à Paris. Il s'agit du Salon Paris pour l'emploi des jeunes, Salon Montreuil, entre guillemets. Et là, il y a une ouverture, c'est complètement différent. Qu'est-ce qui va se passer à Montreuil?
C'est différent, c'est un salon classique pour l'emploi. C'est le Paris pour l'emploi des jeunes. Donc c'est le principal salon dédié aux jeunes diplômés qui s'organise sur Paris. C'est la première fois qu'il a lieu à Paris Expo Montreuil, mais il a déjà eu lieu dans d'autres sites parisiens. Et effectivement, on est présent au sein d'un stand. Donc là, c'est une présence classique au sein d'un forum emploi. Les jeunes visitent les différents stands du salon en passant par le nôtre. On sera avec notre partenaire Cache de l'Entreprise qui sera aussi là pour diffuser ses offres de recrutement. Là, il y a moins l'intérêt de prendre rendez-vous puisque les équipes sont mobilisées pour pouvoir répondre à plusieurs personnes en même temps et aux visiteurs du salon qui passeront par notre stand. Mais voilà, c'est le Paris pour l'emploi des jeunes, le principal forum de recrutement de jeunes diplômés qui a lieu cette année à Montreuil.
Alors, on va avoir la présence, comme d'habitude, hein, des RH, à savoir des directeurs de ressources humaines, et également des collectivités territoriales franciliennes. Donc là, il y a une totale ouverture.
C'est bon, grand large en termes de d'offres d'emploi, de thématiques, de postes divulgués. C'est un salon très très ample avec plusieurs structures diversifiées présentes. Et donc nous on y est pour toujours cet axe langue portugaise et donc offre de stages ou d'emploi valorisant le portugais.
Alors on a dit département de stage et emploi. 31 ans, alors je vais vous poser une colle, hein, le sien de Gouveia. Alors, est-ce que avec du recul, parce que non, tout le travail que vous faites, bon, parce que ça fait déjà une génération et demie, hein, on y revient, qui a passé par Cap Magellan, est-ce que vous avez eu des retours, justement, par rapport de tout le travail que vous avez fait, est-ce qu'il y a des retours des jeunes qui trouvent un emploi, qui trouvent une formation, est-ce que les gens, après, ils vous contactent, ils disent, bon, c'est bien, oh non, c'est pas bien, est-ce qu'il y a un petit
oui, alors, oui, il y a alors, déjà le département stage emploi fonctionne avec un protocole avec l'Institut d'emploi et de formation professionnelle portugais, donc il y a des bilans qui sont faits tous les 6 mois avec une vérification des résultats à l'appui. Certaines personnes, oui, nous donnent des feedbacks de comment ça s'est passé. Il y en a d'autres qu'on voit évoluer après au sein de leur parcours professionnel, indépendamment de l'action du département stage emploi. Souvent, on a aidé au début, puis après, chacun fait son chemin naturellement. Mais oui, ce retour, il existe et il est pour nous indispensable. De la part des entreprises, c'est moins régulier, ce qui est d'ailleurs dommage, parce qu'on se rend compte finalement souvent à travers les candidats que certaines candidatures ont été retenues. Les entreprises ne nous donnent pas forcément de feedback, ce qui est moins sympa. Mais en tout cas, on essaye au mieux de suivre la candidature jusqu'au bout, même si après, Cap Magellan, ce n'est pas son rôle de participer à la phase finale de recrutement, évidemment.
Et ça n'empêche que je pense qu'il y a un certain nombre d'entreprises françaises et qui vont s'implanter au Portugal, qui ont besoin de cadres et, ou des gens qui ont fait des études bon bien spécifiques. Et qui est-ce qu'ils tapent à la porte de Cap Magellan? Est-ce qu'ils vous appellent en disant, bon, je suis telle entreprise, j'ai besoin de ceci ou de cela, et quelqu'un qui soit bilingue? Parce que, bon, on sait, les entreprises maintenant, bon, françaises, elles investissent de plus en plus au Portugal.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. On est aussi sollicité par des entreprises là-bas qui recherchent des francophones. Alors, le français n'est pas la première langue étrangère enseignée au Portugal, comme on le sait. Donc, il y a aussi effectivement cette réalité. On a même des anciens du département stage emploi qui travaillaient au sein du département, qui étaient accompagnés par le département, qui parfois, dans le cadre de leur activité, ont des besoins comme ça ponctuels aussi de francophones et qui se souviennent de Cap Magellan et nos contacts. On en a eu une récemment d'ailleurs. Mais oui, il y a une demande accrue vis-à-vis du Portugal. Après, comme je le disais tout à l'heure, l'activité, c'est quand même principalement la France et les offres d'emploi en France.
Alors, ce n'est pas pour rien que l'actuelle présidente de Cap Magellan, elle habite au Portugal.
Exactement, c'est vrai, la présidente de Cap Magellan est au Portugal. Après, bon, elle fait quand même pas mal d'allers-retours. Elle travaille pour une grosse entreprise française, d'ailleurs, au Portugal. Donc là aussi, il y a un lien qui est intéressant à exploiter sur la partie des RH. Mais effectivement, maintenant, la communication est beaucoup plus rapide et fluide. Donc la distance n'est pas forcément un obstacle.
Voilà, bon, c'est de visu, hein, c'est pas comme avec les retraites. Hein, parce qu'ici, la CNAV doit envoyer des formulaires au Portugal, attendre que les papiers arrivent, qu'ils soient traités, etc. Et après, ça revient en papier. Bon, ils y sont comme ça, ça fait plusieurs décennies. Alors, justement, vous êtes quelque sorte genre de charnière entre le Portugal et la France. Donc, et comme le Portugal, bon, tout le gouvernement, bon, qu'il soit de gauche ou de droite, ils disent, bon, aux jeunes, venez, vous avez vos études, le Portugal cherche des gens qui sont diplômés, qui ont tout un bagage professionnel ou tout un monde de connaissances. Est-ce que les autorités portugaises font appel à vous ou pas?
Oui, alors dans le cadre de ce protocole, c'est accompagné par le secrétariat d'État à l'emploi ou au travail, comme ça change souvent de nom en fonction des gouvernements. Donc oui, il y a ce lien direct avec les autorités aussi. Après, effectivement, les gouvernements en place doivent maintenant s'attacher à rappeler les jeunes qui sont partis du pays, parce qu'on en a bien besoin. Et donc, Cap Magellan et son DSE sont complètement disponibles pour aider là-dessus aussi, évidemment.
Eh ben, bon, ça mérite rétribution, tout ça. Bon, alors, le 27 mars, au Consulat Général de Portugal à Paris, de 10 à 16 heures, bon, uniquement sur rendez-vous, s'il vous plaît, et après, c'est ouvert, ouvert à tout le monde, ça sera le 28 mars, justement, au Salon Paris pour l'emploi des jeunes à Montreuil. Une petite dernière question annexe, ça concerne les études supérieures au Portugal. Il faut peut-être rappeler nos jeunes auditeurs que l'université portugaise réserve un certain nombre de places pour les jeunes luso-descendants.
Oui, et qu'il convient de commencer les candidatures, enfin le montage de cette candidature dès maintenant. Effectivement, 7% des places dans les universités et polytechniques de l'enseignement supérieur public portugais sont réservées à des luso-descendants dans la première phase de candidature, 3,5% après dans la deuxième phase. Ces quotas ne sont pas remplis parce que la divulgation n'est pas suffisamment importante. Le processus de candidature est assez lourd et complexe et bureaucratique. Alors à Cap-Magellan, on a aussi deux personnes qui s'occupe d'accompagner les jeunes dans ce processus avec un contact direct au niveau de la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur au Portugal pour faciliter la fluidité du processus. Et effectivement, il est de bon ton de commencer à monter le dossier dès maintenant parce que le parcours est effectivement long, administratif. Donc si les jeunes attendent le dernier moment, ils n'arriveront pas à tenir les délais. Donc là aussi, n'hésitez pas à contacter Cap Magellan pour cette partie liée à la promotion de l'enseignement supérieur. C'est ce qu'on appelle le quota des 7%.
Voilà, à bon entendeur, salut. après, pour en parler, on n'était pas au courant. Luciana Gouveia, merci, bon vent, merci. Bien entendu, et en avant Cap Magellan. Merci.
Merci, bon dimanche.
Merci. Et estamos aproximado calmamente para as 13 horas, mas entretanto relembro que a Santa Casa Misericórdia de Paris está a organizar uma coleta Páscoa 2024 até ao final deste mês para obter produtos alimentares, mas igualmente de higiene para ajudar portugueses que vivem numa situação de precariedade. Esses bens alimentares ou possivelmente de higiene podem ser entregues em vários pontos. Isto tem a ver com a comunidade católica, mas vão ao site da Santa Casa Misericórdia para encontrar esses lugares exatamente. E já agora, às 16 horas, aí vai ser onde? Em Brissiomado, no Château Laurence, como é hábito, o encontro mensal de Gaivota Fado. Desta vez, a convidada é Tânia Caetano. Sem esquecer, igualmente, a partir das 14, aí vai ser em Olnés-sous-Bois, na sala Chantelou, a Associação Cultura Portuguesa e Rancho Rosa dos Ventos, organiza um festival de abril, 50 anos, nem mais nem menos, vai haver especialidades portuguesas, ao que parece. Nós aqui ao lado também temos, na medida em que já arrancou na passada sexta-feira, Festival da Gastronomia Portuguesa na Sala Vasco da Gama, das instalações da Rádio Off, Rua Vasco da Gama, em Valentão, até o dia 24, com três chefes que vieram de Leiria. E houve alguém que nos deixou, precisamente fez ontem anos, que era a Pedro Barroso, que faleceu no dia 16 de março de 2020, já lá vão 14 anos, mas Pedro, quem és?
Já que aqui estou, vou-lhes agora contar de mil passos feitos vida, desta vida atribulada, desta vida de cantar. Se sobrar peito, depois de mil melodias, depois de tantas palavras, tantas terras, tantas estradas, tantas noites, tantos dias. Viva quem canta, que quem canta é quem diz o que vai no peito vai-me um país. Viva quem canta, que quem canta é quem diz o que vai no peito vai-me um país. O Algarve manda e baila, tu
cai a dufes na beira e entre as os montes aprendi a bombar como Zé Pereira. Mundo fora, dei abraços nos Açores e na Madeira, deixei amigos do peito e em casa cantei na eira. Viva quem canta, que quem canta é quem diz o que vai no peito vai de um país. Viva quem canta é quem diz o que vai no peito vai de um país. Trago nos dedos malhões do que rondas de caminho, no Douro aprendi chaneiras, dancei as chulas no Minho. Valentejo fica o peito da planície de cantar. No fado colhi o jeito de um país por inventar. Viva quem canta, que quem canta é quem diz o que vai no peito vai de um país.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Estamos em direto a Passagem de Nível na vossa companhia, segunda hora, neste dia 17 de março, relembro, emissão com redifusão na noite da terça para quarta-feira, a partir das 10 horas, sem esquecer o podcast. As Areias do Imperador, uma adaptação teatral de um livro do escritor moçambicano Miyakoto, adaptação essa feita por Vítor Vitor Oliveira. Muito boa tarde.
Olá, boa tarde.
Muito obrigado por estar em direto connosco. Representação do 27 ao 30 de março na MC 93, como quem diz, em Bobigny. Mas antes de mais, a peça está a ser representada a partir de hoje até o dia 23 no Teatro Nacional Maria II. Dona Maria II.
Sim, sim. Sim, sim, a peça vai ser apresentada esta semana, portanto a estreia ainda não foi feita, será na quarta-feira, portanto vai ser apresentada de 20 a 23, está integrado no, na programação do Teatro Nacional Dona Maria II, mas como o Teatro Nacional está em obras, portanto vai ser fora de portas e aí vai, e é por isso que vai ser apresentado na Culturgest, no Campo Pequeno em Lisboa, mas como sendo uma programação do, do Dona Maria, dentro de um ciclo que se chama Abril, abriu, que está obviamente ligado às comemorações do, do 25 de Abril, dos 50 anos do 25 de Abril.
Ora, eu penso que precisamente estes 50 anos, este aniversário para si é muito importante. Eu queria relembrar a Vítor Oliveira, na medida em que Moçambique e a guerra colonial é algo que, bom, que queremos ou não, estar intimamente ligado à sua vida, não é?
Sim, está inteiramente ligado, quer dizer, à minha vida e a de muitos outros portugueses, mas também à vida dos meus pais, dos meus avós. Portanto, eu nasci em Maputo, em Lourenço Marques, na altura, portanto, ainda durante o período colonial. Os meus pais também, os meus avós, é que eram todos, portanto, eu chamo Vítor Oliveira porque o meu avô, os meus dois avós eram portugueses, foram para Moçambique, ficaram por lá e morreram por lá, aliás. E os meus avós, portanto, juntaram-se com as minhas avós, que eram negras moçambicanas, mas elas negras moçambicanas já também mistas, mistas porque o meu bisavô vinha de Goa, portanto na Índia, e do outro lado o meu, a minha bisavó vinha de Cantão, na China, portanto tudo isso tem a ver com os portos portugueses, tem a ver com toda a colonização portuguesa. E aí, quando eu chego às Areias do Imperador, quando decido montar, tem tudo a ver também, obviamente, de uma certa maneira, com a minha relação com com a colonização, com Moçambique, com Portugal e a relação que existe ainda hoje para isso.
Sim, com efeito, bom, se apagarmos, por exemplo, em incêndios criados em 2019 em Maputo, aí vemos, por exemplo, essa ligação sempre com Moçambique. Ora, vamos a esta adaptação teatral do livro de Mia Couto. Ora, temos que é uma história de amor. Bom, trata-se de Imani, uma jovem moçambicana e germã de um soldado português. Isto passa-se, bom, durante a colonização e a guerra. Guerra, porque muita gente esquece, é precisamente é que em Moçambique houve, antes da guerra colonial, que tudo arrancou em 1961, tinha havido a dita pacificação. Gugunhanha e companhia, e penso que a peça está um bocadinho centrada nessa época, não é?
Sim, a peça na verdade está centrada na última, nos últimos sim. anos, nos últimos anos do chamado Império de Gaza, que é o Império, portanto, do Imperador de que se fala no título, as áreas do Imperador, é o Imperador Gungunyana, que era o Imperador de Gaza, porque ele era, o reino dela era toda a região de Gaza, que é no sul de Moçambique. E nessa altura, portanto, o Gungunyana não era o único chefe, havia outros chefes, como o Zixacha, que também está presente no espetáculo e no romance do Mia Couto, e cada um desses chefes, pronto, tinha uma região, e todos eles tinham acordos com os portugueses, uns mais do que outros. O Gungunyana era um dos que não tinha muito pouco acordos, fazia também acordos com os ingleses, e daí é por isso que era extremamente complicado, porque era tudo muito politizado, digamos assim, entre os apoios que ele tinha com os portugueses e depois... mas a verdade, o que ficou para a história foi que foi o imperador que resistiu mais tempo contra os colonos portugueses, portanto, e é por isso que o Gungunyana hoje tem uma estátua em Moçambique e é conhecido como aquele que resistiu mais contra os colonos portugueses, portanto, e depois todas as outras que estão à volta disso têm a ver porque nessa altura justamente havia Portugal tinha interesse em guardar obviamente Moçambique, mas os ingleses também estavam um bocado à espreita, os alemães também estavam um bocado à espreita e tudo isso durante muitos anos foi assim. Aliás, o meu avô paterno foi para Moçambique para o que era na altura, portanto um pouco mais tarde, a guerra de 14-18, muito poucas pessoas sabem que a guerra de 14-18, quando se ouve falar, foi aqui na Europa, obviamente, mas também houve uma parte que continuou em África, porque os alemães nessa altura queriam, segundo eles, roubar um pouco de Moçambique, ou tirar um pouco de Moçambique. Uhum. E então foram tropas enviadas para contrariar essa invasão, digamos, pelos alemães na parte de cima de Moçambique, no norte de Moçambique. Mas isso fez com que, ao ler As Areias do Imperador, houvesse algo que me tocasse bastante, porque há essa relação, obviamente, com os meus avós, mas há também muitas outras coisas que têm a ver com o olhar sobre a colonização portuguesa, que têm a ver com ainda hoje, como é que se olha para isso, ainda hoje, como é que nós refletimos sobre esta nossa história comum, e como é que as estátuas que estão um bocado por todo lado, quer seja em Moçambique ou em Portugal, o que é que elas dizem? Nós, da nossa história. Uma outra das personagens extremamente importantes no livro e no espetáculo é, obviamente, a presença do capitão Mozinho de Albuquerque, uhum. que foi o capitão que ficou para a história como sendo o capitão que conseguiu dominar e conseguiu prender o imperador. E o que é muito forte do Mia Couto é que ele não fala apenas dessas duas personagens, do Gungunyana e do Mozinho de Albuquerque, como sendo personagens da nossa história, não como heróis, mas como pessoas e como políticos que tentavam de um lado e do outro ver de que maneira que eles poderiam vencer. E para além do lado heróico, o que está muito mais... que é muito mais presente, é o humano, é os homens, esses dois homens, e com as suas incertezas, com as suas dúvidas, com as suas fragilidades, sobretudo o Gungunyana, é mesmo a última parte da vida dele, e o que nós vemos não é a personagem do herói, é a personagem do homem, que já está no fim da sua vida e que sabe que o seu reinado não vai demorar muito tempo, não vai durar muito tempo. E por outro lado, o Mozinho de Albuquerque, a imagem que nós temos não é aquela do herói que nós vemos aqui em Portugal, nas ruas, nos largos, nas praças. Há muitas ruas, praças e largos em Portugal com o nome de Mozinho de Albuquerque, porque foi ele que ficou para a história como aquele que conseguiu capturar finalmente o Leão de Gaza, mas é mais a história de alguém que não era um militar tão ético quanto isso, e que finalmente a maneira como houve uma glorificação do que sucedeu foi um ponto de vista da história de como é que nós glorificamos certos atos precisamos de herói. E há uma das personagens que é uma outra personagem que fala que é o capitão Sérgio de Sousa, fala justamente disso, que a captura de Ngonhani tem muito a ver com a necessidade de Portugal nessa altura de mostrar que dominava as suas colónias africanas e para o mostrar foi capturar o Ngonhani, depois deportou para Lisboa. Ele obrigaram-no a fazer um género de parada, como é que se diz, de desfile pelas ruas de Lisboa, a ser insultado por toda a gente, obviamente, e tudo isso para mostrar, pronto, que Portugal tinha conseguido e que era muito forte, mas na verdade as coisas não foram assim tão simples. Portanto, há toda essa parte da história que está no espetáculo, mas para além dessa história, que foi a história, pronto, que nós lemos nos livros, o que é muito forte e muito bonito no livro do Miyakoto é a ficção. E a ficção, como disse no princípio, tem muito a ver com a história dessa mulher negra, africana, moçambicana, e a história desse jovem branco português. Mas, que é também... Diga.
Sim, peço desculpa, Vítor Oliveira.
Diga. Não. Que é também, para mim, uma imagem longínqua da história dos meus avós, do meu avô e da minha avó, que se encontraram lá e que estiveram juntos, e eu, pronto, não tem nada a ver com a história do Germânio e da Imani, que não acabou da mesma maneira e não aconteceu da mesma maneira, mas há essa relação possível de amor que houve e que não foi única entre mulheres negras e homens brancos, ou como penso que talvez tenha havido também no lado contrário. Portanto, todos esses elementos para mim são elementos importantes de tentar pôr no palco tudo isso e fazer-nos refletir juntos.
Aliás, bom, e Foucault, uma coisa importante é que a maior parte esmagadora das vezes a história foi escrita pelos colonizadores e não pelos colonizados, de maneira que sobre isso. Mas relativamente ainda, voltando ao imperador Ngonhani, eu era criança e o fascismo fez um filme sobre isso que acaba de narrar agora, de obrigar a desfilar por Lisboa. O fascismo fez um filme que passava no início da televisão portuguesa. Eu era criança e lembro-me disso. Na altura falavam de pacificação, mas enfim. Mas disso, quer dizer, finalmente, esta sua adaptação teatral, mas para já o livro do Miyakoto, Areias do Imperador, é mais do que, digamos, atual, porque quando se seja os 50 anos do 25 de Abril, precisamente o olhar da história, quando se fala de descobertas, fala-se disto, daquilo, daquele outro, digamos que finalmente esta peça de teatro é dizer às pessoas: bem, cuidado, meus amigos, olhem aqui o que se passou antigamente, quem é que fez factos heroicos, quem é que foi, quem é que deixou de fazer a história do racismo, que hoje em Portugal, e vimos isso com os resultados das eleições relativas em Portugal, de maneira que, bom, quer dizer, através deste livro e depois da adaptação teatral que o Vítor de Oliveira fez, é uma maneira de poder interpelar as pessoas, não diretamente.
De uma certa maneira, obviamente, nós somos apenas artistas, não somos políticos, mas eu parto do princípio que cada ato artístico tem e pode e deve ter uma componente política, porque fala de nós, fala de como é vivermos todos juntos, essa coisa que se fala muito em França, de vivre ensemble. O que é que isso quer dizer, concretamente, e como é que podemos viver juntos, sendo todos tão diferentes, justamente? Portanto, E para fazer um espetáculo de teatro contemporâneo a partir de uma história que se passa no fim do século XIX, para mim foi muito importante, não apenas para mim, como toda a minha equipa, que é composta por moçambicanos, portugueses e franceses, foi extremamente importante termos em conta essa questão, como é que nós partimos de uma história que se passa no fim do século XIX, mas hoje que ecos é que essa história tem? Que ecos e como é que pode ressoar, não sei se é a palavra, mas penso que sim, como é que isso pode ressoar ainda hoje na sociedade que é nossa hoje, em 2024? E isso para mim era extremamente importante e foi algo que nós tentamos trabalhar durante todo o tempo de ensaios em Moçambique e em Portugal, em Aveiro, e é o que nós vamos continuar a fazer nesta semana quando apresentamos aqui em Lisboa e depois na semana seguinte quando apresentamos na MC 93, é tentar dar a ouvir todas essas nuances que há no texto e que há em cada uma das deixas das personagens, uhum, que nos fazem refletir sobre onde estamos hoje, e faz muito bem em falar do que se passou nas últimas eleições em Portugal, porque tem muito a ver também com a maneira de olhar o outro, e na peça há isso, obviamente que há essa coisa da alteridade do outro, há personagens que estavam dentro da maneira como se via o outro, aquilo que se chamava o indígena em Moçambique, do racismo absolutamente incrível que havia para que todas as, a maior parte das personagens portuguesas tinha para com os chamados indígenas, mas também há outras personagens que têm um outro olhar e que falam de uma outra maneira. Portanto, há uma personagem extremamente importante que era o capitão que levou o barco do Gungunhane de Maputo, na altura Lourenço Marques, para Lisboa, que tem um monólogo, que é um monólogo feito pelo ator Miguel Moreira, que é absolutamente incrível, justamente que fala da escravatura e fala da responsabilidade dos portugueses, de Portugal, mas não apenas portugueses de Portugal, de nós enquanto seres humanos, de como é que nós olhamos uns para os outros e como é que nós aceitamos as nossas diferenças. E esse monólogo, pronto, eu quando li o romance foi também uma das coisas que me fez ter imensa vontade de o levar ao palco, porque são palavras extremamente importantes, que é importante ouvir, e obviamente é importante ler, as pessoas devem, acima de tudo, ler o romance do Miyakoto, que é absolutamente lindíssimo, que são três tomos, mas que se lê muito bem, e é para mim é uma obra-prima, mas todo o trabalho que nós fizemos, que eu fiz para a adaptação, e o trabalho que eu fiz com toda a minha equipa artística e técnica, é para tentar levar tudo isso de maneira que o espectador, quando se senta e que fica a ver o espetáculo, possa ter tudo isso, possa ouvir tudo isso, possa ver tudo isso e juntos tentarmos refletir sobre que história é nossa e como é que nós já podemos olhar para ela, quer dizer, porque não já aconteceu há muito tempo, já estamos a comemorar os 50 anos, portanto, da Revolução do 25 de Abril, ano que no próximo ano Moçambique vai comemorar os 50 anos de independência, portanto, 50 anos é muito pouco tempo, é pouquíssimo, quer dizer, Moçambique é um país extremamente jovem, é pouquíssimo, mas mesmo assim parece-me que é o tempo suficiente para que possamos olhar para esse passado comum e de uma outra maneira e ao mesmo tempo olhá-lo e perceber como é que as pessoas como é que o que estava a ser feito, como é que foi feito e como é que hoje não podemos e não devemos voltar atrás, porque é isso é que é terrível, é que a história deveria assim, ensinar-nos, e muitas vezes temos a impressão que, não, que as pessoas se esquecem rapidamente.
Sim, que a história gagueja às vezes. Enfim, bom, Vítor de Oliveira, obrigadíssimo. Areias do Imperador, dias 27, 28, 29 e 30 de março na MC Cadavantreza, em Bobigny.
Muitíssimo
obrigado. E a referir que a peça vai ser representada em português, em moçambicano e também
Em Xangana, porque isso também foi uma das coisas muito importantes. Tem a ver com aquilo que se chama cada vez mais o descolonizar as mentes. Tem a ver com o fato de as personagens, porque são as personagens históricas, eles não falavam português. O imperador Gungunyan não falava português. Ele tinha uma tradutora, portanto, e essa tradutora é que é a personagem de ficção, que é Imani, que é essa jovem que o Miyakoto inventou, mas ele tinha os seus tradutores, portanto ele não falava português, e toda uma parte da população não falava português. Portanto, eu tive que trabalhar com os meus atores, que vão estar, e para as personagens, em muitas situações, eles representam em Xangana, e obviamente que vai ser legendado, o espetáculo vai ser legendado, como em Bobigny, o espetáculo vai ser todo legendado em português e em Xangana. E juntar essas duas línguas no palco, para nós é extremamente importante, muito, muito importante. Estou muito, muito ansioso para ver como é que o público lisboeta e o público parisiense vai acolher este espetáculo. Eu gostaria muito que toda, que eu poderia chamar de diáspora portuguesa, toda a comunidade portuguesa de Paris e dos arredores, pudesse vir ver, porque tem a ver com a nossa história.
Da nossa história, com efeito. E de que maneira? Vítor de Oliveira, obrigadíssimo, e damos encontro aqui, portanto, a partir do dia 27, em Bobigny, mas não deixamos o teatro, vamos para o teatro musical também. Ali vem.
A saudade. C'est curieux, je l'ai autant pour le Portugal quand je suis en France que pour la France quand je suis ici, au Portugal. À la fois, je me sens à ma place et aujourd'hui, j'aimerais tellement être ailleurs. C'est Joanne, ma petite sœur, qui veut vendre notre maison familiale. Il a fallu qu'on prenne une décision, c'est vrai qu'on y vient peu depuis plusieurs années. J'avais oublié comme il fait chaud ici au mois d'août.
Tu sais, c'est pas que je m'en fiche qu'on vende cette maison. C'est juste que c'est pas pareil pour moi.
Et la continuation, bien, il faut attendre le 22 mars au théâtre de Brunois. Daniel, bonjour et merci d'être en direct avec nous.
Bonjour Arthur, comment va?
Tout va bien. Alors ça y est, la pièce elle revient. Bon, vous avez été à Rouen. Cette fois-ci, c'est à Brunois. Bon, on a déjà expliqué. C'est une pièce de théâtre musical sur le déracinement et la transmission aux couleurs lusophones. Justement, cette représentation le 22, bon, ça va être bientôt, dans 5 jours environ. Donc bon, ça roule la pièce. Ça y est, maintenant c'est tous les automates sont créés ou pas?
Pour une grande part, évidemment, mais ce qui est bien, justement, avec le spectacle vivant, c'est que ça bouge. Ça bouge dans le sens où on n'a pas forcément le même public devant nous, on n'a pas forcément la même envie d'exprimer sur les différentes représentations, les différents moments qu'il y a dans la pièce. Et puis, comme on en a parlé la dernière fois, on a un nouveau comédien qui s'appelle Simon Quintana et qui apporte sa propre personnalité et donc forcément des nouveaux enjeux sur ce qu'on pourrait ressentir sur les différents moments de cette pièce.
Et en même temps, j'ai l'impression, bon, et là, je peux relier avec la pièce Les Oreilles d'Imperador, la mémoire est présente, et ça, c'est très important, parce que finalement, je ne dis pas qu'on est limité par la mémoire, mais elle nous assaille à chaque fois.
Oui, bah, et de toute façon, après, on a ce devoir de mémoire de ce qu'ont vécu nos aïeux, de ce qu'on vit aujourd'hui, parce que en fait, cette pièce, ce n'est pas seulement que la première génération, c'est aussi la deuxième et même la troisième qui est représentée donc par nous. Et ça permet peut-être de mieux analyser le parcours de chacun, le pourquoi. du silence de certains par rapport au SALT ou par rapport à ce que chacun a vécu, le fait de vivre en France ou au Luxembourg ou je sais pas au Canada, enfin partout où sont les Portugais. En général, ils se sont intégrés, ont pris la culture du pays où ils vivent, mais toujours avec. Et ça, je crois que c'est bien. Comment dire, ça appartient bien aux Portugais. Et même si ils s'intègrent partout, en fait, ils restent toujours avec cette notion de Portugais dans le sang et de défendre. Et comme je te l'ai dit assez souvent, c'est une pièce certes qui se passe à Lisbonne, au Portugal, elle est parlée donc en français, mais c'est des sujets qui sont tout à fait universels. Et le public français qui vient nous voir s'y retrouve aussi, parce que encore une fois, je me répète, la vente d'une maison familiale, c'est universel. Et puis le désir d'aller voir si l'herbe est un petit peu plus verte ailleurs, c'est un peu tout le monde, quoi.
Voilà, donc, l'histoire d'une famille, d'un amour et d'un exil. Donc ça va être, au théâtre de Brunois le 22. Alors, après il y a Monaco. Ça y est, Monaco, et on peut écouter Radio Alpha aussi, mais on aura le temps de parler, ça sera le mois prochain. Alors, en attendant, vous avez lancé un appel, ça justement pour permettre d'aller au Festival Off d'Avignon cette année 2024. Est-ce que ça avance? La collecte a comme objectif 15 000 euros, ça avance ou pas?
Bah, écoutez, de toute façon, c'est aussi pour impliquer les gens, parce que c'était quelque chose qui nous avait été soumis l'année dernière, et pour être tout à fait sincère, on n'était pas forcément très chaud. Donc, on a forcément des sponsors qui sont là, qui nous aident à emmener ce spectacle à Avignon. Mais on pensait que c'était peut-être bien aussi de faire participer les gens, parce que quand on sort d'une représentation, la plupart des gens ce qui nous disent, mais c'est notre histoire, c'est mon histoire, c'est exactement ça, et donc du coup d'impliquer les gens, c'était un moyen en plus de les faire participer à notre aventure. Donc voilà, et on vient de le mettre en ligne sur Hello Asso, j'espère que les gens participeront autant que les témoignages qu'ils nous donnent à la sortie des représentations, quoi.
Voilà, mon entendeur, salut. Bon, merci Van qui est pressé, je sais. Van, on pourra te trouver cet après-midi.
On est à Gaivota, exactement, à Gaivota, et aujourd'hui la RMG reçoit Tania Ketan, voilà.
Effectivement, je l'ai déjà annoncé, mais il vaut mieux deux fois qu'une. Merci, Dan. Merci. D'ailleurs, on va réécouter la bande-annonce complète. Ça fait 2 minutes et poussière, mais c'est très bien. Merci, Dan.
Coucou à Manu. Merci. Au revoir.
Au revoir.
La saudade. C'est curieux, je l'ai autant pour le Portugal quand je suis en France que pour la France quand je suis ici, au Portugal. À la fois, je me sens à ma place. Et aujourd'hui, j'aimerais tellement être ailleurs. C'est Joanne, ma petite sœur, qui veut vendre notre maison familiale. Il a fallu qu'on prenne une décision, c'est vrai qu'on y vient peu depuis plusieurs années. J'avais oublié comme il fait chaud ici au mois d'août.
Tu sais, c'est pas que je m'en fiche qu'on vende cette maison. C'est juste que c'est pas pareil pour moi.
Acheter la bière, la mâche qu'on divait, chez la hiche que qu'on erre, le zi avait nous.
Allez, Saoud.
Saoud. Personne ne voulait se décider. Clara était toujours occupée, et puis toi tu disais rien. Aucun soutien à la famille, aucun.
Eh bien oui, jamais. Jamais, parce que tu n'as jamais compris. Tu ne comprends pas que ça me fait du mal de se séparer de cette maison.
J'ai parlé avec maman. Demain, je vais appeler mon père. Je veux faire un pas vers lui.
So, te sourire, t'es qu'un tas.
Est-ce que tu crois que derrière l'horizon, en montagne, il y a notre vie qui nous attend?
En partie, je crois. J'ai rien à t'offrir ici.
Je suis pour toujours qui va m'entraîner.
Au pauvre que m'a sauvé, de tout voyage, même du plus petit.
Je reviens comme d'un sommeil rempli de
na reta final da passagem nível neste domingo, dia 17 de março, e vamos passear, ou já vamos até Faf e depois iremos até Mugador. Isto a propósito de, vai ser a primeira participação dessas duas municipalidades naquilo que eu chamo Feira Gastronómica de Nanterre, já lá vão 19 edições. Senhor Presidente Antero Barbosa, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Boa tarde, eu agradeço. Um cumprimento a todos aqueles que nos ouvem através da Rádio Alfa.
E qualquer maneira vamos dar encontro, hein? Em Nanterre, eu vou lá estar também e teremos a ocasião de nos conhecer pessoalmente. Ora, é a primeira vez que o município de Faf está presente nesta feira em Nanterre, e não é por acaso que o espaço comum, bem, um espaço, depois já iremos quem é que faz parte deste espaço, foi designado como Faf é tão perto, Sr. Presidente.
Eu agradeço à ARCOP, digamos, esta insistência para participarmos e, portanto, vamos com gosto e com prazer. E é, de facto, aqui um momento único de promoção e afirmação de FAF. E queremos transmitir essa mensagem que, apesar de estarmos no norte de Portugal, FAF é perto aqui no continente, mas também é perto de Paris hoje, com os meios de comunicação de que dispomos. Deslocamos-nos para qualquer parte do mundo com rapidez, e portanto é essa a afirmação do nosso território e das suas vantagens que queremos também aproveitar esta oportunidade para nos afirmarmos, sim.
Sim, os produtos locais, eu tenho o hábito de dizer, nada melhor que os produtos genuínos da região. E nós sabemos que, infelizmente, durante anos, o mercado dito da saudade, para a imigração eram enviadas coisas, digo sinceramente, que não mereciam sequer o preço que uma pessoa pagava, bem, mesmo que sejam muito baratos. De maneira que é a necessidade também de dar valor e que seja valorizado, precisamente, esses produtos genuínos da região, agora concretamente aqui do Conselho de Faf.
Sim, é a oportunidade também de nós, através das empresas que nos acompanham nesta visita, promoverem os produtos, portanto, junto da nossa comunidade, quer seja os vinhos, quer seja os doces, portanto, que são aqui muito tradicionais e muito apreciados pelos residentes, ter também a oportunidade de os poder divulgar e, com isto, criar oportunidades de negócio para as nossas empresas.
Aliás, as empresas que vêm são quatro empresas da FAF: Vinhos Norte, Doçaria de Fornelos, Pudim da TV e Quinta de Estrofães. Uma pequena pergunta, Sr. Presidente. Pudim da TV, porquê este nome? O que é exatamente? Bom, um pudim, sei o que é um pudim, mas enfim.
Terão a oportunidade de ver esta especialidade de uma empresa muito recente aqui criada e que produziu este pudim. E que tem nos últimos tempos tido uma procura e uma expansão exponencial para todo o mundo, e portanto é a oportunidade também que esta nossa empresa local de promover este seu produto, que estou convencido que será do agrado de todos. E portanto este foi o nome que lhe foi atribuído, porque apareceu num concurso de televisão e ficou com este nome. Podia ser Abade Frisco, tem algumas semelhanças com ele, mas enfim, foi o nome que a empresa achou por bem atribuir-me.
Mas podia-nos explicar o que é ser Abade Frisco?
É um pudim muito semelhante ou parecido com o pudim Abade Priscos, mas digamos num formato mais pequeno, mas tem e numa embalagem que pode ser comercializado e portanto pode ser armazenado para consumir mais tarde, portanto é uma inovação na forma de o apresentar e de o comercializar, e portanto espero que que seja ou que tenha a oportunidade de o demonstrar a todos aqueles que visitarem a feira, sim.
Eu vou ter que provar, mas, Sr. Presidente, agora vou fazer o advogado do diabo, não é? Ora, quando se fala de que se tem que fazer muito cuidado com a alimentação, etc, 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 quando vemos as doçarias portuguesas e aquilo que nós, vocês vão trazer, bom, vamos perder o juízo?
Não vão, não. Têm a oportunidade, nós buscamos a felicidade nas nossas vidas e às vezes estas iguarias ajudam-nos a encontrar momentos de felicidade. Quero desde que não seja, naturalmente, em excesso, quanto baste, mas faz parte da nossa tradição acompanhar o jantar ou o almoço com um copo de vinho verde, neste caso, que vão estar presentes aí, ou um doce no final da refeição. Tudo isto também nos ajuda a encontrar esta harmonia nas nossas vidas e, portanto, desde que não seja por excesso, não fará mal e...
Pelo contrário. Ora, Sr. Presidente, venha dirigir uma comitiva, para além do Sr. Presidente, Antero Barbosa, vai vir também a Vereadora das Relações Internacionais e as Geminações, Paula Nogueira, e igualmente o Assessor da Presidência para o Desenvolvimento Económico, quer Felipe Teixeira, de maneira que vão passar aqui 3 dias e vocês têm alguns encontros marcados com entidades luso-descendentes. O que é que está previsto, precisamente?
Temos ao longo desses 3 dias que vamos estar fora do país, portanto em contacto com os nossos imigrantes, também com aqueles de FAF que estão aí na proximidade de Paris e que estão a preparar aí alguns encontros para nós também podermos conviver, além de quando eles vêm ao nosso país, portanto termos agora também a oportunidade de estar com as associações e contactar com eles, visitar algumas empresas. Mas também este é o momento que nós aproveitamos para afirmar um pouco o nosso território e estamos numa fase de também promover o nosso território em termos empresariais e não deixaremos de aproveitar esta oportunidade e, portanto, aqueles que nos acompanham ou que me acompanham nesta comitiva, tratando-se da primeira edição, também vamos ver qual é a dimensão e, portanto, em futuras edições podemos reforçar aqueles que nos acompanham ou tipo de empresas para lhes proporcionar também estas oportunidades.
Ora, portanto, a delegação de FAF vem com 7 número de produtos, mas há algo mais, que, aliás, tem a impressão que foi um convite direto do município. Trata-se do grupo feminino do Jogo do Pau do Centro Cultural e Recreativo da Juventude de Sapães.
É uma tradição que nos caracteriza muito aqui no nosso concelho, é o Jogo do Pau, e ele inicialmente estava muito vocacionado para o masculino. Surgiu aqui um grupo de senhoras que praticam esta arte e vamos aproveitar de dar-lhes esta oportunidade também de se divulgarem aí junto dos nossos imigrantes e, portanto, há um grupo de femininos que irão exibir esta arte que nos caracteriza também, é um pouco das nossas tradições aqui, o Jogo do Pau, no nosso concelho, sim, que acompanha-nos. Terão oportunidade outras, ou faremos acompanhar-me de outras tradições, noutras edições, mas nesta foram os que mostraram disponibilidade também para nos acompanhar.
Ora, alguém que vocês acompanharam e que esteve há poucos dias aí em FAF é uma grande senhora, Maria Beatriz Rocha Trindade, onde ela fez a apresentação do livro Em Torno da Mobilidade, Provérbios, Expressões Idiomáticas e Fases Consagradas. Ora, a iniciativa decorreu no Arquivo Municipal de FAF e estava integrada na programação daquilo que é, penso eu, o único museu deste género em Portugal, que é o Museu das Migrações e das Comunidades, Sr. Presidente.
A Maria Beatriz Rocha Trindade, a doutora Maria Beatriz Rocha Trindade, está muito ligada à gênese e à criação do Museu da Imigração que temos. Começou por ser um museu muito virtual, presente nas redes sociais, na internet, e agora concretizamos há uma par de anos, que visa, no fundo, reconhecer a importância que o município tem por aqueles que um dia tiveram que partir da nossa terra, mas não perderam nunca os laços ao nosso território, e portanto aí esse reconhecimento pela importância que lhe é devida, e portanto aí a materialização deste espaço museológico para fazer esta ligação.
Mas, Sr. Presidente, há algo que eu tenho dificuldades a compreender, é que Faf foi a primeira cidade em Portugal que se lançou na criação deste museu. E aqui que eu pude, aliás, saúdo o primeiro diretor que, infelizmente, já nos deixou, não é? Na medida em que eu senti sempre que da parte das autoridades portuguesas, ou pouco, as autoridades oficiais, não é? Quando se fala muito das comunidades, que são os embaixadores de Portugal, por isso muito fora, e isso tudo, senti que não havia apoio a nível nacional da Secretaria, dos diversos secretários de Estado, das comunidades e por aí fora, ao museu. É um sentimento que eu tenho, bom, eu vivo no exterior, isso é uma certa realidade, Sr. Presidente.
Tem razão naquilo que diz. Digamos, o discurso político sempre foi feito aqui um grande apelo a esta valorização da nossa diáspora e do papel importante que os imigrantes têm para o nosso... Mas depois sempre houve aqui, digamos, algum adiamento na concretização de ações que materializassem este discurso. E, portanto, nós começamos há muitos anos este trabalho com o Dr. Miguel Monteiro, inicialmente muito presente ou muito voltado para a migração para o Brasil, que teve muita importância no nosso Conselho no século XIX, mas depois estendemos a imigração para o espaço europeu, para a França e para outras paragens. E sim, digamos, da nossa parte existe muito esta vontade de, independentemente da vontade nacional, nós em termos locais valorizarmos muito aqueles que um dia tiveram que nos deixar para outras e foram para outras paragens à procura de criar melhores condições de vida. E por isso anualmente realizamos também a Festa do Imigrante e estamos em contacto permanente em termos de autoridades locais com as nossas comunidades. Estamos a fazer um censo também para sabermos para onde é que param, em que paragens param os nossos imigrantes. E vamos acolher também aqui em maio a Gala dos Portugueses de Valor, que trarão aqui também ao nosso território, ao nosso concelho, aqueles que irão ser valorizados pelo bom desempenho que têm no mundo associativo, no mundo empresarial. E, portanto, há aqui esta vontade de nós valorizarmos muito aqueles que, sendo nossos, vivem fora do concelho.
António Barbosa, muito obrigado. Lembro a Presidente da Câmara Municipal de Faf. Damos encontro lá. Um grande abraço e até para a semana, então.
Até para a semana. Dia 22 aí estarei com muito gosto. Muito obrigado.
Deixamos Faf, vamos mais para o interior. Até ao Mogador. António Pimentel, muito boa tarde.
Boa tarde, viva.
Muito obrigadíssimo por estar em direto connosco, Presidente do município de Mogador. Ora, Sr. Presidente, é a primeira vez que Mogador vai estar presente na Feira de Nanterre?
Exatamente. É o primeiro ano que uma delegação de produtores do Conselho de Mogador vão estar representados na Feira de Nanterre. E é com muito gosto que vamos estar aqui, porque efetivamente temos uma comunidade de mogadorenses, não só, e portugueses nessa região. E, portanto, vamos levar aquilo que melhor produzimos, os nossos produtos, produtos de origem Mogadouro. Como sabe, a Câmara Municipal de Mogadouro desenvolveu um projeto denominado Origem Mogadouro, e todos os produtores que aí vão estar fazem parte desse projeto, que procura alavancar, digamos, a economia regional.
Portanto, são produtos que eu diria de mais-valia, Sr. Presidente.
Exatamente, são produtos de qualidade, produtos que certificados com o selo Origem Mogadouro, e que vão desde os vinhos à amêndoa, à noz, ao azeite, ao fumeiro. Portanto, todos esses produtos vão estar aí expostos, produtos de alta qualidade, sem dúvida nenhuma.
Ora, nós sabemos que o interior começou... Sete número de pessoas dizem que Portugal, mas quando olham para Portugal só veem a orla atlântica. Nós sabemos que no interior, precisamente no interior do país, para haver um desenvolvimento económico não é nada evidente, de maneira que o setor agrícola é importante para manter para já as populações, poder desenvolver a economia local. Como é que se passa em Mogadouro?
Ora bem, naturalmente Mogadouro é um concelho do interior que sofre de processo de desertificação natural por causa do envelhecimento e porque os jovens que acabam no ensino superior naturalmente vão partindo para outras paragens. Apesar da Câmara Municipal de Mogadouro ter uma política de incentivos à criação de emprego no concelho, temos conseguido estancar de algum modo, mas não conseguimos atrair grandes empresas que se fixem no território. E não há dúvida nenhuma que só grandes empresas é que podem alavancar o desenvolvimento do interior. De qualquer maneira, Mogadouro tem um conjunto e uma rede de apoio às pessoas que, como outro concelho, não tem. Desde aqui ninguém paga creche, infantário, amas, portanto tudo é gratuito. Os agricultores não pagam sanidade animal. Nós apoiamos com 5 mil euros por cada posto de trabalho sem ter, mais a segurança social durante 48 meses. Portanto, criamos aquelas condições de atratividade. Agora, efetivamente, faltam chegar, se calhar, também aos salários, sejam eles estrangeiros ou portugueses, que desde que se instalem em Mogadouro podem beneficiar destes incentivos.
Eu tenho só que, nesse aspecto, vocês devem ser dos raros conselhos que propõem isso tudo. Ora, Sr. Presidente, aqui vão ter um comitê de acolho, passa a expressão, vão ser aqui recebidos e, sobretudo, bom, agora eu queria me referir à Associação Mogadouro no Coração. Sr. Olímpia Ferreira, boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Boa tarde, Silva.
Ora, o Sr. Presidente está em linha, de maneira como é que vocês vão receber a delegação que vem do Mogadouro? É a primeira vez que as vão participar na Feira de Nanterre. Sr. Olímpia, o que é que vocês prepararam para a comitiva que vem do Mogadouro?
É assim, essa iniciativa, não nós, nem da Juminação, nem da Associação Mogadouro no Coração, temos que agradecer realmente ao Sr. Presidente da Câmara de Mogadouro, que é uma pessoa fantástica, para a qual ele trabalha muito para envolver e fazer conhecer o nosso concelho. Nós, de certeza, que vamos recebê-los, que iremos visitar a Nanterre, com a Comissão de Juminação. Fazemos muito gosto que eles estejam presentes e iremos lá visitá-los e recebê-los da melhor maneira, porque para nós é um orgulho muito grande a iniciativa que o Sr. Presidente tem, porque pela primeira vez acho que a Câmara de Mogadouro vai estar presente na Feira de Nanterre.
Sr. Presidente, são importantes as geminações, na medida em que Mogadouro está geminado precisamente com Gola.
Exatamente, eu ia falar justamente nisso, não só com Grolé, também com Plumaguar, junto dos quais divulgamos a nossa presença nesse certame. Uhum. Estou certo que, para além do contributo que a Olímpia dá e a influência que tem em Grolé, que vamos ter também uma delegação, certamente, de Plumaguar, que foi a nossa primeira geminação em território francês.
Onde é que fica? Na Bretanha, essa localidade?
Na Bretanha.
De maneira que não estão muito longe. Ora, Sr. Olímpio...
A TGV resolve esses problemas, não é? Infelizmente que a França tem TGV por todo lado.
Ora, Sr. Olímpio Ferreira, é bastante importante que a Associação Mogadouro no Coração, o trabalho dela também divulga precisamente as artes e tradições, não só musicais, de Mogadouro, não é?
Sim, tentemos divulgar aquilo que nós mais podemos, levar o Mogadouro o mais longe possível. Já há 15 anos que andamos nesta luta, a fazer este trabalho, que várias vezes o Sr. Artur Silva sabe que passamos aí na Rádio Alfa, e sem ser só na Rádio Alfa, tentemos divulgar o quanto podemos que tenha a ver com o Mogadouro.
E a propósito de Mogadouro e tudo tem a ver, Sr. Presidente, foi inaugurado o novo edifício do Arquivo Municipal de Mogadouro, de maneira que até que ponto é que vamos lá encontrar documentos relativos à imigração, à diáspora que partiu aí do concelho?
Ora bom, tínhamos um arquivo, mas um arquivo que não tinha condições para guardar a história de Mogadouro. De maneira que, como acabámos de construir um edifício que custou 1.600.000 euros, reservámos nesse edifício um espaço suficiente para justamente guardarmos a história de Mogadouro. Portanto, será o novo arquivo de Mogadouro que estamos a instalar e, naturalmente, onde irão estar os documentos, toda a documentação referente ao concelho de Mogadouro. Vai ser um instrumento importante, um instrumento de consulta. Mas, felizmente, Mogadouro ainda ontem procedeu também à inauguração de um espaço para a juventude, para os mais jovens, E para além disso, tem a dispor, quem nos visitar, um complexo desportivo com condições ótimas para receber as pessoas. Tem um belíssimo parque de campismo, tem um estádio municipal, tem piscinas cobertas, descobertas. Está em construção também um novo ginásio, cujo valor ronda os 2 milhões de euros, portanto, tudo no mesmo espaço. E, portanto, tem condições para quem quiser vir passar a sua semaninha de férias a Mogadouro, podê-lo fazer, porque efetivamente temos essas condições para o receber e para lhe proporcionar uma semana agradável.
O convite está feito, mas para já é com vocês, com a delegação que vem do Mogadouro, e igualmente, evidentemente, esperamos também pela senhora Olímpia Ferreira, em Não Terra, a partir de sexta-feira.
Permita-me que lance um repto a todos os portugueses que vivem na região de Paris, principalmente mogadourenses, e não só, mas principalmente mogadourenses, que no próximo fim de semana se desloquem aí para além do convívio poderem também adquirir os produtos da sua terra. É extremamente importante contar com a presença da nossa diáspora.
Muito obrigado, e nós lá estaremos também, vamos estar em direto, aliás, o programa é feito em direto. Senhora Olímpia Ferreira, obrigadíssimo.
Obrigada eu, e boa tarde, Senhor Presidente, foi um prazer estar em contacto consigo, um beijo grande, e até sexta-feira.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mogadouro, António Pimentel. E estamos a terminar a emissão, e precisamente o instrumento que escolhemos é de quem? De Júlio Rezende, a Júlia Rezende, que vai estar no dia 19, já para a próxima semana, às 9h30, no Sunside, para apresentar o seu trabalho Filhos da Revolução, Sunside, que se encontra no número 60, Rue de Lombard, em Paris. Nem mais nem menos. Obrigado, igualmente, ao Manuel Alexandre. Bem-ajam e até para a semana em direto de Não Terra. Thank you.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12